Nous sommes en compagnie de Michel Zancarini Fournel. Nous parlons d'une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, intitulée Les luttes et les rêves. J'aimerais vous entendre d'abord sur le fait que ce soit une histoire populaire. Qu'est-ce que vous entendez par populaire ?
Alors, au départ, c'est la commande, si je peux dire, des éditions La Découverte qui m'ont demandé d'écrire une histoire à la Warzine, c'est-à-dire qui avait fait une histoire du peuple des États-Unis de 1492 à nos jours, qui est traduit en 2002 en français par une histoire populaire, le peuple étant traduit par populaire, voilà. Donc en fait, il s'agissait d'une autre histoire, d'une histoire par en bas, qui ne se préoccupait pas des puissants et des qui ne partaient pas, des puissants, des dirigeants et des vainqueurs, et qui partaient de ceux qui souvent sont vaincus, mais qui lutte pour essayer d'obtenir un avenir meilleur. Voilà. C'était ça le principe. Et ça s'appuyait sur un certain nombre, évidemment, d'autres histoires qui ont été faites, en particulier par l'histoire qui a été insufflée par Thompson en 1963 sur la formation de la classe ouvrière anglaise, montrant à quel point cette classe ouvrière était en fait non pas une catégorie bien déterminée, mais quelque chose qui est un regroupement de personnes qui se constituaient au fur et à mesure et qui développaient une conscience en s'appuyant sur un certain nombre de principes qu'il a nommé ensuite économie morale. On pourra éventuellement revenir là-dessus. Et aussi sur d'autres ouvrages théoriques qui permettent de réfléchir à la question des subalternes. Le terme de subalterne a été mis en valeur par le théoricien marxiste italien Antonio Gramsci, qui entendait par domination politique, par subalterne, une domination politique essentiellement. Et c'est la raison pour laquelle la question des contours d'une histoire populaire est plus extensive qu'elle ne peut paraître, puisque j'ai parlé aussi, par exemple, dans le premier chapitre, des protestants, qui étaient poursuivis par le roi Louis XIV pour l'exercice de leur religion, pour qu'ils refusaient l'exercice de leur religion. Et tous les protestants n'étaient pas des pauvres artisans ou paysans, mais certains étaient de confortables entrepreneurs, des nobles même, mais ils étaient placés dans une situation de domination politique. Cette domination politique se combine souvent avec une domination sociale. Et c'est cette question-là des subalternes qui, en particulier, a été développée par un groupe d'historiens indiens en parlant des subalternes et en parlant des paysans et en étudiant comment les paysans indiens se sont à la fois se sont regroupés pour et ont redéfini une autre histoire en fonction de... par rapport à la bourgeoisie indienne et par rapport aussi à l'ancien, les anciens dominants de l'Empire anglais. Donc c'est cette histoire-là, qui est une histoire populaire sur la longue durée, on peut dire, qui prend en compte un certain nombre de personnes, de catégories, qui sont dominées à différentes époques dans une situation spécifique. C'est-à-dire que toute la domination est examinée de façon située dans une conjoncture spécifique. Et ce n'est pas la même, évidemment, du XVIIe au XXe siècle.
Donc, deux types de domination, domination politique et domination sociale, oui, qui ne sont pas forcément toujours exactement du même type, mais qui souvent se recoupent. Et du coup, on comprend pourquoi vous intitulez cette histoire populaire de la France « Les luttes et les rêves ».
Oui, alors c'est pour aussi dissocier, on peut dire, d'autres histoires populaires, puisqu'il y a une histoire populaire depuis le 19e siècle déjà, et c'est un très beau titre qui est tiré du titre du volume 3 des Contemplations de Victor Hugo. Alors ça englobe effectivement ce que j'ai traité dans le livre, mais sans englober cependant ce que j'appelle, à la suite de l'historien Jean-Nicolas, la continuité des jours, et que je me suis efforcée d'étudier, c'est-à-dire c'est non seulement, on ne lutte pas tout le temps, il n'y a pas des grèves tout le temps, si vous voulez, il y a aussi le quotidien, comment les vies de chacun, chacune, ont affaire avec ce quotidien, font des compromis, s'arrangent de la situation ou pas, luttent pour la dignité, etc. Donc, j'ai des chapitres qui traitent uniquement de la vie, des vies ordinaires, des compromis, des paysans, des ouvriers, par exemple.
En France, dans la discipline historique, est-ce qu'il y a eu des précédents à votre livre ?
Dans une époque récente, non, bien que Pierre Goubert, pour le XVIIe siècle, ait fait un livre qui s'appelait Louis XIV et 20 millions de Français. Donc il montrait déjà la voie en disant qu'il n'y avait pas seulement un roi, mais qu'il y avait seulement 20 millions de Français. Je ne crois pas que c'était fait sur une durée aussi longue.
Alors, la particularité de votre livre aussi, c'est que vous ne réduisez pas cette histoire de la France au territoire hexagonal, vous l'ouvrez au territoire colonisé. Pourquoi ?
Ça, c'est une option forte. C'est une option forte qui vient de ma pratique, on peut dire, de longue durée, d'écrire une histoire des femmes, puisque je suis spécialiste au départ de l'histoire des femmes et du genre, qui soit intégrée dans une histoire générale et qui soit pas une histoire séparée. Et de la même façon, je pense qu'il est extrêmement important, et ça n'est pas fait ou c'est très peu fait, d'écrire une histoire des colonisés, des immigrants de toutes sortes, des esclaves, qui soient intégrés dans une histoire dite nationale et qui, du coup, ne se limite pas du tout à l'Hexagone, qui d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Eugène Weber a montré que l'Hexagone, et c'est un mot en fait qui est apparu dans les dictionnaires en 1962, au moment où l'Empire se délitait et où la métropole, il n'y avait plus de métropole puisqu'il n'y avait plus d'Empire, et que l'Hexagone en fait est défini en 62 dans les dictionnaires comme le territoire métropolitain. Donc il y a comme une persistance, on peut dire, de ce territoire colonial qui était en rose sur les cartes dans toutes les écoles et qui n'existe plus en 62.
Et ça, c'est quelque chose qui est très étonnant quand on lit votre livre, parce qu'on s'attendait, moi en tout cas, en tant que lecteur, je ne m'attendais absolument pas à voir autant affaire à cette histoire nationale dans laquelle vous intégrez les esclaves, les colonisés. C'était une réelle surprise, parce que c'était aussi une méconnaissance de ma part de leur histoire.
Ben, je crois que c'est une nouveauté, voilà. Je crois que si c'est une des nouveautés de ce livre, c'est que cette histoire-là soit intégrée, parce que il existe des histoires, il y a de très bons historiens en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et qui écrivent l'histoire de leur territoire, mais cette histoire-là est souvent, malheureusement, reste interne, si on peut dire, et n'est pas diffusée, y compris dans l'Hexagone, comme on dit, et donc c'est important, c'est dans leurs écrits que j'ai trouvé, je n'étais pas spécialiste de cette question-là, mais c'est dans leurs écrits que j'ai trouvé de quoi alimenter ce récit, ce récit où les colonisés, les migrants et les migrantes, alors ça, il y a plus de choses écrites sur les migrants et les migrantes, sont intégrés à l'histoire générale quoi, de la France.
Oui, parce que vous n'avez pas écrit un livre sur l'histoire de l'esclavage, ni sur l'histoire des colonisés. Mais vous avez écrit une histoire populaire de la France et vous incluez dedans ces groupes-là, ces personnes-là aussi individuellement. C'est un acte fort, enfin c'est un acte aussi politique.
Oui, c'est un acte politique fort, mais je pense aussi qu'ils ont contribué à façonner le pays, si vous voulez. Toutes ces personnes, à des degrés divers, à des moments divers, qu'il ne s'agit pas bien sûr de tout mêler, mais ont contribué à provoquer des débats, à faire bouger les choses. Je donne un exemple. On parle de la première abolition de l'esclavage en 1794 par la Convention, mais on parle donc d'une convention qui aurait ainsi magnanimement décrété cette abolition, mais en fait, on dit rarement que c'est parce qu'il y a eu une insurrection à partir de 1791, des esclaves à Saint-Domingue, entre autres, qui est devenu ensuite Haïti, à Saint-Domingue, et qui a, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, l'abolition de l'esclavage a d'abord été faite sur ces territoires, et ensuite a été étendue par la Convention à l'ensemble des territoires colonisés. Elle n'a d'ailleurs pas été appliquée à l'île Bourbon, qui est aujourd'hui la Réunion. Mais ça, c'est un détail. Enfin, c'est pas un détail, mais enfin, c'est une histoire un peu plus complexe. C'est-à-dire, il faut voir territoire par territoire comment cette abolition s'est faite, dans quelles conditions. Comment elle ne s'est pas faite aussi, par exemple, à la Martinique, qui était occupée par les Anglais. Et ensuite, comment elle a été, vous le savez, supprimée, cette abolition a été supprimée par Louis-Napoléon Bonaparte pendant le consulat en 1802, toujours à la suite de l'envoi d'une armée napoléonienne sur place et qui a été défaite très très vigoureusement par l'armée indigène, chose qui n'est absolument pas connue et qui n'apparaît pas dans les histoires aujourd'hui et qui permet de relire autrement aussi l'épopée napoléonienne.
Et cette insurrection des esclaves noirs, notamment en août 1791 à Saint-Domingue, est-ce que ça pourrait être le pendant de la prise de la Bastille pour nous en 1789 ?
Oui, probablement, bien que dès 1789, dès septembre 89, les esclaves de Martinique et de Guadeloupe, qui ont eu les nouvelles par les marins qui débarquaient et qui racontaient ce qui s'était passé sur Paris, se sont emparés de plantations, ont réclamé leurs droits dès 1789. Donc il y a tout un continuum, on peut dire, de révoltes localisées, plus ou moins réprimées d'ailleurs, et qui effectivement essayent d'avoir l'égalité des droits. Ils demandent d'être traités comme des êtres humains. C'est vraiment tout ce qui court dans le livre tout le temps, quels que soient les groupes et quel que soit le moment, c'est être traités comme des êtres humains. C'est d'ailleurs sur la photographie de couverture.
Est-ce qu'on peut faire, dans la première moitié de votre ouvrage, ce fil conducteur qui pourrait être l'esclavage, à partir du Code noir en 1685, vous faites commencer votre livre Michel Zancarini-Fournel en 1685, notamment parce qu'il y a le Code noir, mais pas que. Expliquez-nous pourquoi cette date, ce choix de date de 1685.
Alors, j'ai choisi cette date parce que je voulais... je ne voulais pas partir évidemment de nos ancêtres les Gaulois, hein, qui est une histoire mythique. Et le siècle de Louis XIV, disons le règne de Louis XIV, c'est le symbole même du pouvoir absolu. Et partir de ce qui a pu, enfin de la résistance, on peut dire, à ces actes, aux édits royaux, sous différentes formes. Par exemple, je commence le livre, si vous permettez que je vous lise un extrait. Sur l'interrogatoire d'un nègre esclave nommé Louis, qui est âgé d'environ 15 ans. Et voilà ce que dit ce texte, et c'est aussi un discours sur la méthode, si vous voulez. Comment on peut, à partir d'un texte qui est un texte, un interrogatoire de police, comprendre la vie des esclaves, parce qu'évidemment, ils n'écrivaient pas, et on n'a pas de texte d'eux-mêmes. Donc comment, que peut-on savoir de la vie des esclaves ? Je vous le lis rapidement. « A déclaré et convenu qu'il est marron depuis environ 18 lunes avec Rémi son père et autre nègre de son 10 mètres, lequel Rémi, ayant eu du mécontentement du dit sieur Gourgue et ayant été fouetté, avait médité ce marronnage, préparé ses vivres sans se dispenser d'aller au travail et deux jours après serait parti avec le dit Louis, son fils, Claude, Louis-Auge et Paul, son frère, dans un petit canot de pêche appartenant au sieur Sébastien Gourgue. » Donc en fait, il nous raconte que les esclaves ont décidé de quitter, être marrons, c'est ça. Le marronnage, c'est une grande pratique de refus des esclaves de la condition de domination qu'ils subissent. Et là, à plusieurs, ils ont pris un bateau de pêche du patron de l'habitation, qu'on appelle l'habitation, la plantation, et ils ont fui. Et c'est quelques 18 lunes, donc j'imagine 18 jours après qu'on les a récupérés. Mais parfois, c'est beaucoup plus long. Et donc, il y a le marronnage, il y a le fait de travailler aussi lentement, il y a toute une série de gestes qui sont des formes de résistance qu'on peut ainsi... répertorié en relisant les textes.
Et même des formes de résistance aussi, l'on lit dans votre ouvrage, que l'on apprend plus minimes, comme la musique, le fait qu'il y ait encore pratique musicale pour se souvenir de leur lieu de vie antérieure.
Oui, il y a des chants, il y a des danses aussi. Il y a des danses à La Réunion, par exemple. Il y a une pratique qui a duré, qui est une forme de résistance, qui se passait la nuit, donc après le travail, et qui était des danses en commun avec des formes de transe qui disaient le temps où ils étaient dans une autre contrée et où ils n'étaient pas esclaves. Et donc il y a toute une série de pratiques où il y a une forme de culture commune qui perdure et qui permet de résister à la vie très très dure et aux punitions extrêmement violentes de leur maître.
Alors, si on continue sur ce fil conducteur de l'esclavage. Il est aboli en 1848, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous allez continuer à nous emmener sur la continuité de ces personnes-là après l'abolition. Leur histoire ne s'arrête pas à l'abolition.
Non, ils ont même fait des... Bon, après l'abolition, ils ont même fait des projets pour réorganiser le travail qui n'ont pas du tout été acceptés par les planteurs. Et il y a eu des formes de reprise en main et de non-application, en fait, parce qu'on leur a demandé de racheter de racheter le fait qu'ils aient été libérés. Et donc, comme ils ne pouvaient pas payer, ils payaient par le travail, un travail qui était toujours obligatoire. Ou bien on a fait venir ce qu'on appelle des engagés, c'est-à-dire des gens qui avaient été libérés de l'esclavage en Afrique, mais qui étaient engagés pour plusieurs années sans avoir le droit de quitter la plantation et qui travaillaient pour un maître à qui ils devaient par exemple demander l'autorisation pour se marier et qui n'avaient pas le droit de bouger. Ils étaient comme attachés à la terre, un peu comme des serfs au Moyen-Âge, si vous voulez. Et donc, il y a différentes formes de domination sur les corps, sur les êtres, qui sont mis qui existent après le décret d'avril 48 sur la seconde abolition de l'esclavage. Et on a un discours souvent irénique sur cette abolition. C'est vrai que Schœlcher a fait beaucoup pour cette abolition, et assez isolé d'ailleurs dans le groupe des hommes politiques de 48. Mais ça a été loin d'être quelque chose, contrairement à ce qui est souvent écrit dans les manuels scolaires, qui a complètement supprimé toute forme de travail contraint, de travail dominé et de domination aussi des gens en les assignant à un lieu dont ils ne peuvent pas bouger.
Parce que après, on est très très proche aussi de l'histoire de la colonisation également. Par exemple, quand on arrive en 1919 au premier congrès panafricain qui se tient à Paris, est-ce qu'il y a une pluralité de luttes qui arrivent à ce moment-là à avoir une parole?
Alors là, c'est une histoire complexe, le congrès panafricain, parce que bon, c'est au moment des négociations après donc la victoire de 1918, avec le président des États-Unis Wilson qui est là. Et c'est une association, c'est la première fois, on peut dire, qu'une association de personnes distingués par les phénotypes noirs, si vous voulez, qui viennent à la fois des États-Unis, des délégués des États-Unis, qui donc ont à se plaindre également, malgré l'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1865, de formes de maintien dans une situation presque d'esclave, et puis des gens de l'Afrique colonisés par les Français, pardon, entre autres Blaise Diane, qui avait obtenu, en mobilisant des gens qu'on appelait les tirailleurs sénégalais pour se battre dans l'armée, qui avait obtenu la citoyenneté française pour les hommes, hein, bien sûr, comme dans le reste du pays, pour les hommes, et qui demandait un certain nombre de... qui avait un programme, si vous voulez, pour étendre cette citoyenneté à l'ensemble des colonisés d'Afrique noire, bon, ce qui n'a pas été accordé, mais le Clémenceau ayant accepté que cette réunion se tienne dans la foulée, enfin en même temps que la discussion à Versailles sur les traités de paix.
Alors, si on prend ce personnage Blaise Diane, par exemple, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, en tant qu'historienne, sur lui? Qu'est-ce qui s'est passé avant dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé après dans sa vie?
Ben, il a essayé de pardon, il a essayé de d'introduire une forme de citoyenneté, justement, en échange de cette conscription. Citoyenneté qui a été partiellement accordée dans 4 communes du Sénégal, qui était un des premiers territoires colonisés par les Français, à Dakar, Rufisque, Saint-Louis. Pardon. Et donc, il a été député, c'est ce qu'on appelait un évolué dans le langage de l'époque, et il a essayé d'étendre cette citoyenneté, comme je vous le disais, pour l'ensemble. Il s'est battu pour cela, il a échoué, quoi. Voilà. D'accord. C'est un personnage assez connu, et c'est vrai que c'est pas la chose la plus innovatrice, si on peut dire. Il y a eu d'autres personnages qui ont eu en Afrique occidentale, qui ont eu des actions qui sont très peu connues. Ils sont connus pour autre chose. Par exemple, Eboué, hein, qui a été gouverneur du Tchad et qui a rallié le Tchad, qui était un Guyano-Antillais, qui a rallié le Tchad à De Gaulle en 1940. Eh bien, Eboué avait été un fonctionnaire, petit fonctionnaire colonial, on pourrait dire, avant 14, et s'est forcé dans la circonscription qu'il contrôlait, dans laquelle il était d'ailleurs très mal vu par les colons blancs, parce que c'était un homme de couleur. Il s'est forcé d'améliorer le sort des Noirs, de limiter, voire interdire le travail forcé, et de limiter le portage, en particulier d'améliorer la condition des Noirs, alors que cette partie-là de son activité est très peu connue.
Alors j'aimerais que nous tirons maintenant le fil du féminisme. C'est une manière aussi de lire votre livre. Il y a ce fil conducteur. Toute la deuxième partie de votre ouvrage pourrait être en filigrane. Il y aurait la question féminine et l'essor du féminisme. Ça commencerait vers quelles années à peu près?
Alors c'est une question parce que le mot féminisme n'apparaît que dans le dernier tiers du 19e siècle. Mais on peut considérer que dès la Révolution française, un certain nombre de femmes ont eu des actions et des points de vue féministes et l'ont exprimé. Alors, une qui est maintenant connue de façon récente d'ailleurs, hein, c'est depuis 1989 et le bicentenaire de la Révolution que son nom est devenu public, c'est Olympe de Gouges qui en 1791 a fait une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne calquée sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour montrer que les femmes étaient aussi des hommes comme les autres, si je peux dire. Et puis un certain nombre de femmes qui sont intervenues par des pétitions, dans les clubs, etc. Alors cette expression politique des femmes n'a pas été tolérée et elle a été interdite dès 1793. On retrouve des femmes qu'on pourrait taxer aussi de féministes en 1830, après les Trois Glorieuses, et des femmes qui se regroupaient autour des Saint-Simoniens qui voulaient promouvoir une autre société et qui se dénommaient les prolétaires saint-simoniennes. Et effectivement, elles étaient couturières, brodeuses, institutrices pour l'une d'entre elles, etc. Et elles revendiquaient l'égalité avec dans le groupe des Saint-Simoniens. On les retrouve aussi en 1848, où là, elles réclament deux choses. Jeanne de Rouen, par exemple, qui se présente aux élections, alors que le suffrage universel, qu'on dit universel en 1848, est en fait un suffrage universel masculin, puisque les femmes n'ont pas le droit de vote jusqu'en 1944. Enfin, en tout cas, les femmes de l'Hexagone, parce que pour les colonisés, ce sera plus tard. Et ensuite, si vous voulez, c'est à partir donc de 1870 qu'on commence à parler de féministe. D'abord, c'est un mot péjoratif qui est repris par des femmes qui revendiquent l'égalité des droits, le droit de vote. Par exemple, quelqu'un comme Hubertine Auclert, qui revendique ce, qui est une, ce qu'on appelle une suffragette, qui revendique, y compris parfois par une forme de violence, le droit de vote, et qui refuse par exemple d'être recensée en disant « puisque je ne vote pas, je ne compte pas, et donc je ne veux pas être recensée », ou bien qui refuse un temps de payer ses impôts en disant « puisque je ne vote pas, je n'ai pas à payer d'impôts », etc., etc. Mais, bon, moi j'ai insisté à deux moments, sur trois moments sur les féministes, mais il y a bien d'autres moments, hein, mais on pourrait en prendre trois. C'est au moment de la Belle Époque où les féministes, c'est ce qu'on a pu appeler l'âge d'or du féminisme, où il y avait un mouvement féministe important qui commençait à rassembler des femmes, et où le grand reproche qui était fait à ces féministes, c'est d'être des bourgeoises, hein. Parce que on disait que la lutte des féministes dévoyait la lutte des ouvriers et qui devait être première, et que la question de l'égalité des femmes viendrait après que les ouvriers aient obtenu des droits. En fait, j'ai mis l'accent sur justement des femmes qui étaient non pas des bourgeoises mais des ouvrières, et qui se sont emparées de la question du féminisme et l'ont attribué, l'ont exercé par rapport au travail, ont revendiqué des droits pour le travail, la égalité pour les femmes, et se sont même insurgées contre des lois qui en apparence étaient protectrices, comme la loi de 1892 qui limitait le travail des femmes la nuit et la durée du travail, mais qui en réalité leur interdisait un certain nombre de professions. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pendant la guerre de 14-18, où les féministes, une grande partie, une majorité des féministes, a abandonné tous les combats pour le droit de vote, en devenant des patriotes et en étant en participant à plein à l'Union sacrée. Et une toute petite poignée a continué à refuser et appliquer le mot d'ordre d'avant la guerre, qui était « refusons de faire la guerre, faisons la grève des mères », c'était une chanson, et parce que on ne veut pas donner nos enfants, faire de nos enfants de la chair à soldats. Voilà. Et puis, après la guerre, dans ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres, des militantes qui, y compris dans des municipalités, se sont présentées. Là, elles étaient souvent soutenues par le Parti communiste, mais aussi par le Parti socialiste, se sont présentées pour être sur les listes électorales, alors qu'évidemment, c'était illégal. Alors, on connaît mieux les féministes des années 70, disons, enfin, où on croit les connaître, mais c'était important de montrer qu'il y avait... ces mouvements sur la longue durée, quoi.
Et alors, par exemple, si on prend l'exemple de Jeanne Bouvier, je peux peut-être vous redire à peu près, pour vous la remettre un peu en tête, Jeanne Bouvier, qui était ouvrière et féministe. Voilà, comment vous vous emparez de son cas? C'est parce que elle avait publié, ses mémoires ont été publiées. C'est comme ça que vous avez pu être documenté, par exemple, sur son cas.
C'est ça. Elle a publié ses mémoires plus tard, et ça a été publié d'ailleurs dans les éditions Maspero, qui sont l'ancêtre de la Découverte. Et donc, j'ai repris simplement ses actes et mémoires. C'était la collection Actes et mémoires du peuple. Je me suis d'ailleurs servi de nombre de ses ouvrages pour avoir comme ça des portraits. J'ai comme ça le portrait d'une femme de la commune que j'ai trouvé aussi dans ses actes et mémoires du peuple, dans cette collection. Et donc, Jeanne Bouvier raconte ça. Puis, il y a eu une histoire des féministes de la Troisième République qui était faite par Laurence Kleijman et Florence Rochefort, et dans lequel elles ont ces portraits, des portraits aussi très précis et très développés. Je leur ai repris, par exemple, le portrait de Gabrielle Petit, qui est une ouvrière qui a fait un journal, enfin, voilà, qui sont des personnages tout à fait particuliers.
Parce que se pose toujours la question de l'archive, puisque On est dans une histoire de petites gens aussi, beaucoup. Comment trouver les archives pour pouvoir à chaque fois avoir des destins singuliers, mais voir aussi comment ça s'inscrit dans l'histoire globale aussi, quelles étaient leurs influences. Parce que par exemple, pour Jeanne Bouvier, elle était syndiquée, elle a une vie longue, hein, elle a vécu 99 ans.
Oui,
C'est,
oui, oui.
quelle richesse dans sa vie. Alors, voilà, en 2 pages et demie, vous retracez un petit peu son parcours et puis le fait qu'elle s'est fait jeter en fait de la CGT.
Ben oui, parce qu'en fait, elle a œuvré beaucoup pour une loi qui était adoptée pendant la guerre en 1915 pour que les ouvrières à domicile, ce qu'elles étaient au départ, soient payées un tarif. Elle travaillait souvent pour l'armée et donc elle a profité, on peut dire, de la conjoncture où on avait besoin des femmes qui faisaient des vêtements militaires pour imposer un tarif et une loi donc sur ce travail-là. Et du coup, elle s'est retrouvée dans les instances dirigeantes de la CGT. Elle a participé à une conférence internationale aux États-Unis en compagnie de Léon Jouault, le secrétaire général de la CGT de l'époque. Et elle a dénoncé ses pratiques, entre autres parce qu'il s'était affiché avec sa maîtresse, etc. Et ayant dénoncé ses pratiques, elle a été éjectée effectivement de la direction de la CGT. Et elle a contribué après à écrire, elle a écrit un dictionnaire qui n'a jamais été publié, mais elle a écrit des notices. Sur des personnages féminins. Et effectivement, elle a vécu très longtemps, mais les dernières années de sa vie très solitaire et isolée.
Et pour terminer sur votre vraiment ce bel ouvrage de référence, il n'y a pas de conclusion. Alors, je me suis questionné sur le fait qu'il n'y avait pas de conclusion. Je m'étais dit que c'est parce que c'était impossible de conclure une histoire populaire, et puis aussi que conclure, c'était apporter trop de généralité à des choses qui ne pouvaient pas en avoir.
On s'est interrogé avec Grégoire Chamaillou, l'éditeur de Zone, on s'est interrogé sur la date de la fin. Moi, j'avais presque envie d'arriver jusqu'en 2016, si vous voulez. Et à juste titre, il m'a fait remarquer que ce serait démodé dans quelque temps, et plutôt de réfléchir à une date qui paraîtrait symbolique. Et en choisissant l'année 2005 comme fin, si vous voulez, de cette vaste fresque, j'ai pensé que les questions qui étaient posées dans l'année 2005 autour des questions qu'on pourrait définir du postcolonial étaient, et aussi de l'Europe, hein, puisqu'il s'agissait du référendum de l'Europe sur l'Europe et qui, vous savez, le non l'a emporté finalement et sans effet majeur sur ce qui après sur l'organisation de l'Europe. Et donc ces deux moments forts de cette année 2005 sont encore des questions qui sont patentes aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'était une forme de conclusion qui ouvrait sur le très présent, quoi, le très contemporain.
Eh bien, je vous remercie, Michel Zancarini-Fournel. Merci.
Merci, au revoir.